Manon, bonjour. Bonjour au pasteur André, Jean-Gilbert, bonjour. Bonjour aux amis. Immacula, bonjour. Bonjour à la belle-mère. Bonjour à Jude. Tu transmets nos salutations à Caridad. Le mardi 9 août 2022. Bonjour Pascal. Bonjour Julie. Il y a des choses à votre épouse, si Julie. Et en passant, Julie, si un jour vous êtes, si un dimanche vous êtes dans la région de Montréal, sachez que vous êtes la bienvenue pour vous joindre à nous pour une réunion. Ça nous ferait plaisir de vous avoir parmi nous. Répéter tout à l'heure, mais c'est notre dernière semaine de bénédiction matinale pour cet été. On va, après ça, je vais prendre 2, 3 semaines en pause. On espère que ce sera du repos, mais à prime abord, c'est en pause. On verra après ça pour le repos. Merci Julie. Non, il est 8h23, journée un peu nuageuse ce matin. En tout cas, je sais pas ce qu'ils annoncent pour le restant de la journée, mais pour l'instant, c'est pas très très chaud. En fait, c'est agréable pour moi. Et c'est pas ensoleillé pour l'instant. Voilà pourquoi je peux être face à la fenêtre. Ou dos à la fenêtre plutôt. Sinon, s'il y avait grand soleil, le contre-jour serait trop fort pour la caméra. Bonjour à la sœur Florie. Bonjour au frère Louis. Que Dieu vous bénisse tous deux. Soyez bénis. Merci à la sœur Florie. Cette semaine, on étudie encore dans 2 Timothée au chapitre 4. Bonjour Marie-Marthe. J'espère que tu vas bien. Bonjour Guy, sois béni. sœur Marta Lucia. Que Dios me la bendiga. Bonjour Alakis. Bonjour Ramon. Bonjour Evelyne. Merci Marta Lucia. Encore 4 ou 5 minutes avant qu'on ne débute. Vous avez le temps d'aller vous chercher un café s'il est déjà préparé. Bonjour Denise, bonjour Gérard. Mi compadre, l'hermano Edwin et la hermana Heide. Que Dieu vous bénisse tous deux. Bonjour à mon père, à ma mère. Je ne sais pas s'ils sont juste eux deux à nous écouter ce matin ou si toute la ribambelle est là. On les salue. Donc la ribambelle, ça serait 3 personnes ou 5 personnes, pas sûr. Bonjour Gilles, bonjour Joanne. Bonjour Denise, cette fois-ci c'est Denise de Laval-Ouest. Bonjour Nathalie, sois bénie, toi et les tiens. Emma qui veut de l'attention aujourd'hui. Bonjour Louise, bonjour Michel. Merci Nathalie. Effectivement, Manon, ceux qui veulent se faire baptiser, il y a enseignement ce soir à l'église à 19h. C'est juste en présentiel. L'enseignement n'est pas en ligne, c'est juste en présentiel pour tous ceux qui désirent se faire baptiser. Et les baptêmes ont lieu ce dimanche. Alors, si vous êtes, vous ou quelqu'un dans votre entourage est candidat au baptême, c'est ce soir que les baptêmes ont, que l'enseignement a lieu. Sampa Wende, Wenaning Barca. Merci Louise. Encore 1 ou 2 minutes. Claude, bonjour. Bonjour à Déborah, à Léa, à Marcus et à Derna. J'étais content de voir Derna dimanche, même de loin. Et Marcus était tout fier de venir me saluer et me dire qu'il avait été salué mon père aussi. Un bon garçon. Alors, on peut ouvrir nos Bibles déjà dans 2 Timothée au chapitre 4. On va lire, comme à notre habitude, du verset 6 au verset 22. Bonjour Lucie, que Dieu vous bénisse. Alors que Dieu mette sa main sur Déborah, la petite. Alors, je vous rappelle quelques annonces qu'on avait, après ça on va débuter. Ce soir, cours pour ceux qui veulent se faire baptiser. Donc les baptêmes ont lieu dimanche matin lors de notre assemblée régulière. Et puis donc la formation, le petit cours rapide pour les baptêmes a lieu ce soir avec le pasteur André à l'église directement. Donc il n'y a pas de cours en ligne, c'est vraiment une séance d'information ou une séance de formation et d'information ce soir à 19h à l'église directement avec le pasteur André et les baptêmes auront lieu dimanche matin. De surcroît cela, cette semaine c'est aussi la dernière semaine de bénédiction matinale pour l'été. Après ça, je vais prendre une pause de 2 ou 3 semaines. Daphné va être en vacances à partir de lundi. Donc, je vais prendre pause aussi. On verra si on se repose, mais en tout cas, on fait une pause. Voilà. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres annonces? Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on va prier et après ça, on va lire notre passage et je vous explique comment on procède et la thématique de l'enseignement de cette semaine tout à l'heure. Alors, merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Encore une fois, c'est un privilège de nous réunir, bientôt 2 ans et demi, même plus, où on se réunit quotidiennement pour étudier ta parole, pour être nourri, abreuvé, fortifié, transformé par elle. On veut te dire merci pour toutes ces séances qu'on a eues jusqu'à présent, et puis pour ta provision quotidienne dans cette nourriture ou dans ce déjeuner que certains appellent déjeuner spirituel. Alors merci Seigneur. On te demande encore une fois aujourd'hui de nous instruire. On te demande Seigneur d'ouvrir notre entendement, de nous permettre Seigneur de bien saisir ta parole, de se disposer pour la recevoir, oui, mais aussi Seigneur pour appliquer ce qu'elle nous dit et pour nous soumettre à ce que ta parole nous enseigne. En toute chose Seigneur, on te dit de prendre toute la place, on te remet toute la gloire, tout l'honneur, toute la puissance, sachant que nul ne t'est comparable. Et on te demande, Seigneur, de nous unir d'une même pensée, d'un même cœur, de bénir toutes les personnes qui sont rassemblées ce matin, mais aussi celles qui écouteront en différé, que ce soit dans la journée ou même bien plus tard dans le futur. On te demande, Seigneur, qu'une même grâce, une même onction soit accessible à tout un chacun et que ton œuvre se manifeste et s'accomplisse à travers chacun d'entre nous. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors je lis pour vous toujours, bien entendu, dans 2 Timothée au chapitre 4, des versets 6 à 22. Et on va relire par la suite le verset 11 qui sera la base de notre réflexion pour cette semaine. Donc 2 Timothée chapitre 4, le verset 6 nous dit « Car pour moi je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychic à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. J'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquilas et la famille d'Onésiphore. Éraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit. Que la grâce soit avec vous. Et je répète le verset 11 une ou deux fois. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Et je reprends juste la section qu'on étudie cette semaine. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Alors que Dieu bénisse sa parole cette semaine. Et particulièrement ce matin. Vous savez que la semaine dernière, on a parlé sur l'importance de la seigneurie de Christ dans et sur notre vie. Donc, on a parlé comme quoi Jésus ne pouvait pas être simplement notre sauveur, mais qu'il se devait aussi d'être notre Seigneur. Sauveur voulait dire qu'il apporte donc le pardon de nos péchés et il nous donne accès au salut et accès par conséquent à la vie éternelle. Seigneur veut dire totalement autre chose. Seigneur veut dire qu'il est maître, qu'il est même propriétaire de notre existence. Et comme le pasteur André le disait il y a deux mercredis, lorsqu'il parlait de Jonas, il disait, regardez, si Dieu est effectivement notre Seigneur, c'est donc que nous sommes ses sujets ou ses serviteurs. On ne peut pas être seigneur et serviteur en même temps. Soit il est effectivement le Seigneur et nous sommes des serviteurs, soit nous lui refusons sa seigneurie, nous lui refusons son droit de propriété et nous sommes nous-mêmes maîtres de notre propre existence. Mais par conséquent, on rejette son autorité sur notre vie et on rejette dans un même souffle le salut qui nous est gracieusement accordé. Donc on a dit clairement, et je le répète pour que tous le comprennent, qu'on ne peut pas avoir Jésus comme sauveur s'il n'est pas en même temps notre Seigneur. Puisque c'est un rachat qui s'accomplit. Alors, on appartenait à Dieu avant le péché initial. Jésus est mort et ressuscité pour le salut du pécheur repentant. Et ce faisant, ce qu'il accomplit, la Bible nous dit, c'est un rachat. Donc, il prend de nouveau possession de la vie du croyant. Et par conséquent, il agit comme propriétaire, puisqu'il a eu le droit de rachat sur cette existence. Cette semaine, on va aller dans la contrepartie de cet enseignement. Donc, si on disait qu'il était Seigneur, cette semaine, on va parler de nous en tant que serviteurs, avec la thématique « Veiller à être utilisable ». Ce n'est pas veiller à être utile, mais à être utilisable. Être utile voudrait dire que notre action est profitable et elle est appréciée. On ne va même pas pousser jusque-là. Il y a une étape qui vient avant d'être utile. Et cette étape, c'est d'être utilisable, disponible, disposé et accessible aux mains de Dieu pour qu'il nous rende, pour qu'il puisse nous utiliser. Donc, avant même de parler de la qualité de notre travail, avant de se lancer dans un tel exposé, on va tout d'abord, cette semaine, se limiter en tout cas au fait simple d'être utilisable. Qu'est-ce que ça prend pour que je sois utilisable? Et on va y aller avec des exhortations qui vont être relativement courtes, de 15-20 minutes maximum, contrairement à nos enseignements habituels, parce que je veux vraiment me limiter sur un point par jour. Donc, on va voir aujourd'hui, mercredi, jeudi et vendredi, quatre points différents qui nous sont mentionnés par un mot, une expression dans ce verset. Donc, les quatre sections, aujourd'hui, on va voir quand Paul dit à Marc de prendre Luc avec lui. De plutôt, il dit à Timothée de prendre Marc avec lui, je m'excuse. Il dit donc à Timothée de prendre Marc. Lorsque Timothée va venir le rejoindre à Rome, qu'il s'assure de prendre Marc. Demain, on va voir qu'il lui dit d'amener Marc avec lui. Et enfin, il va dire que Marc lui est utile, et plus précisément vendredi, qu'il lui est utile pour le ministère. Rappelons qui est Marc. Marc, c'est le cousin de Barnabas. Qui est Barnabas? Le premier voyageur, le premier collègue de Paul dans ses voyages missionnaires. On se rappelle tous comment débute le ministère de Paul. Il est à Antioche, il fait partie de l'Église et il nous apparaît qu'il fait partie des anciens de l'Église. Dans ces anciens, la Bible nous dit qu'il y a principalement des docteurs, donc des gens qui enseignent, et il y a aussi des prophètes, donc des gens qui sont axés soit dans le Logos, donc les Saintes Écritures, ou des gens qui reçoivent des rhémas, donc la parole spontanée de Dieu. Et parmi leurs rencontres, ou au sein de leur rencontre un jour, il y a cette fameuse phrase que l'Éternel va, ou que Dieu va faire entendre, où il dit: Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors les anciens d'Antioche vont prier pour Paul et Barnabas, vont les relâcher pour l'œuvre à laquelle Dieu les a effectivement appelés. Quelle est cette œuvre? C'est essentiellement des voyages missionnaires. Les premiers voyages missionnaires de l'histoire de l'Église vont se faire avec Paul et Barnabas, qui vont donc quitter Antioche et voyager pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, à travers l'Asie mineure, le Proche-Orient, et ils vont établir des églises. Donc, dans ce premier voyage, Paul et Barnabas ne partent pas tout seuls. Barnabas suggère d'amener son cousin, Jean-Marc, qu'on appelle ici Marc. Pourquoi on va davantage sur le nom de Marc? Parce que parmi les 12, il y avait déjà quelqu'un de célèbre qui s'appelait Jean. Donc, pour ne pas le confondre avec Jean, le disciple de Jésus, on a parlé de Marc, Jean-Marc. Donc Jean-Marc part avec son cousin Barnabas et Paul. Et à un moment donné, durant le voyage, Jean-Marc décide de ne plus continuer le voyage et de repartir de façon un peu inopinée, de repartir vers Jérusalem. Et ça frustre Paul. Paul est quelqu'un qui se donne totalement et qui s'attend à ce que les ouvriers autour de lui se donnent aussi totalement. On le voit dans les enseignements et dans la pratique même du ministère de Paul, dans les exhortations qu'il va donner à ses plus proches collaborateurs, notamment Timothée, notamment Tite. On va voir qu'il leur dit de ne pas se retenir, mais de tout donner, de tout faire pour l'avancement du royaume. Et l'enseignement qu'il donne par sa propre vie, c'est de se faire tout à tous, afin d'en gagner au moins quelques-uns, de travailler dans les bons comme dans les mauvais moments, dans les moments favorables comme dans les moments plus difficiles. Donc c'est ce qu'il attend des personnes que Dieu place à ses côtés. Jean-Marc, ayant quitté, lors du deuxième voyage, Barnabas va dire: on repart en voyage, d'accord, alors laisse-nous apporter avec nous ou amener avec nous Jean-Marc. Et là, Paul dit: il n'est pas question. Pas question parce que ce Jean-Marc nous a déjà abandonnés. Et comme on avait déjà expliqué il y a quelque temps, lorsqu'on parlait de Démas et lorsqu'on a parlé un peu de Jean-Marc, le même terme qui était utilisé sur Démas, il m'a abandonné, c'est le même terme que Paul va utiliser à l'époque où Barnabas va suggérer de prendre de nouveau Jean-Marc avec lui. Et ce terme-là, abandonné, veut dire déserté. Donc Paul considère à un moment donné que Jean-Marc a accompli tout aussi mal ou tout aussi mauvais que ce que Demas fera des années plus tard, 15 ans plus tard environ, lorsque Paul est à Rome et qu'il est abandonné par Demas. Le même adjectif, le même épithète qui a été utilisé pour Demas avait déjà été utilisé pour Jean-Marc, comme quoi c'était un lâcheur, comme quoi c'était un déserteur. Et la scission entre Paul et son collègue Barnabas va être si tranchante au niveau de l'œuvre de Dieu que Jean-Marc va partir avec Barnabas d'un côté et que Silas va être le nouveau collègue bras droit de Paul et les deux vont partir en voyage. Est-ce que les deux sont frustrés l'un contre l'autre? La Bible ne nous en dit pas, ne nous dit rien là-dessus. Donc on ne peut pas présumer du mal puisque la Bible nous dit que l'amour ne présume pas du mal. Donc ne rajoutons rien au texte. On sait juste qu'il y a eu une discorde assez intense entre Paul et Barnabas au sujet de Jean-Marc. Discorde ou mésentente assez forte pour que Barnabas continue son chemin de son côté et que Paul continue du sien. Ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est que ni l'un ni l'autre, Paul ou Barnabas, ne semblent fautifs devant Dieu. Les deux vont être utilisés et il y aura une période de restauration pour Jean-Marc à un tel point où lorsque Paul est emprisonné à Rome, seul, abandonné de ce déserteur qu'est Demas, Paul va dire à Timothée, son fils spirituel, lorsque tu vas venir avec moi, prends Jean-Marc, amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Alors le premier enseignement, avant qu'on rentre dans la terminologie du terme prendre, c'est que il y a effectivement possibilité de rachat, possibilité de rédemption, possibilité de restauration. Il y a trop de gens qui veulent prêcher sur la sanction, qui veulent enseigner sur la discipline et la correction, mais il ne peut pas y avoir une correction adéquate si celle-ci n'amène pas la restauration. Il y a une seule condamnation éternelle et c'est celle qui va survenir pour celui qui ne se sera pas repenti de ce côté-ci de l'éternité et qui va passer dans l'éternité sans avoir donné sa vie à Christ et sans vivre le restant de son existence ici-bas sur terre pour Christ. Donc à moins que Jésus ne soit Seigneur et Sauveur et que nous mourions sans qu'il ne soit notre Seigneur et Sauveur, cette condamnation est irréparable. Mais tant que nous sommes sur cette terre, il y a possibilité de rachat, possibilité de restauration, et c'est ce que la parole nous enseigne concernant Jean-Marc. Jean-Marc, ce déserteur, Jean-Marc, cette personne qu'on ne veut pas avoir à côté de nous pour travailler, qui, des années plus tard, aux yeux de Paul, est un homme maintenant transformé et qui peut lui être utile dans ses derniers instants, dans ses derniers moments pour l'œuvre de Dieu. Alors pour nous, ça doit être effectivement un enseignement comme quoi il est possible, avec la repentance et avec la transformation, effectivement d'être restauré. Encore faut-il qu'il y ait restauration. Lorsque Paul a dit de Jean-Marc, je ne veux pas l'avoir avec nous dans notre prochain voyage, c'est que Paul ne voyait pas chez Jean-Marc les changements adéquats, les changements appropriés pour être utilisé. Il disait, je crois que Jean-Marc est dans le même état que la dernière fois, donc il ne nous accompagne pas. Là, il est à Rome et il dit, maintenant, Jean-Marc m'est utile pour le ministère. Jean-Marc est arrivé dans cet état, dans ce stade où effectivement il a été restauré aux yeux de Paul, aux yeux de l'Église, aux yeux des proches collaborateurs de Paul. Puisque c'est pas Paul qui va le chercher, mais il dit à Jean, à Timothée d'aller le prendre avec lui. Leur restauration est possible en autant qu'il y ait effectivement transformation. Et cette transformation était visible aux yeux de Paul. Paul va dire donc, et c'est le mot important pour aujourd'hui, prends Marc et amène-le avec toi. Il dit ça à Timothée. Le terme prendre en grec, c'est le terme analambano. Analambano. Je l'épelle pour ceux qui prennent des notes. A-N-A, donc Anna, et lambano, L-A-M-B-A-N-O. Je répète. A-N-A-L-A-M-B-A-N-O. Et ce terme-là, lorsqu'on l'étudie dans son étymologie grecque, est donc composé d'un préfixe et d'un suffixe. Donc, une première particule de mot au début et une deuxième. La première particule, c'est Anna. Et le terme Anna veut toujours parler d'une reprise, d'une remise en action, d'une deuxième occasion ou d'un retour vers le haut. Et c'est là où la thématique de la restauration, de la rédemption et du rachat devient importante. C'est donc pour le cas de Marc, de Jean-Marc, l'occasion de remonter vers le haut, de reprendre le cours initial de ses actions, de son appel. Rappelons-nous une chose, la Bible nous dit que Dieu ne se repent jamais de son appel ni de ses dons. Ça veut donc dire que même s'il y a eu chute, s'il y a effectivement à un moment donné grâce qui est accordée, parce qu'il y a eu confession, parce qu'il y a eu demande de pardon, et parce qu'effectivement Dieu accorde ce pardon suite à la repentance, ça veut donc dire qu'il y a l'occasion de reprendre le cours de ses activités avec l'onction, la grâce qui accompagnait précédemment cet appel de Dieu. Donc Paul est en train de dire à Timothée, tu vas être l'instrument qui va permettre à Jean-Marc de repartir vers le haut. Et ça nous prend de telles personnes dans l'Église, des gens qui sont capables aussi de reprendre quelqu'un qui était tombé et de le relever pour qu'il puisse entrer de nouveau dans l'appel, dans la vision et dans le mandat divin. La deuxième particule du terme analambano, c'est donc la particule, le suffixe, lambano. Et lambano veut dire saisir, empoigner, enlever, soulever, élever. Il y a effectivement encore cette idée de monter vers le haut, mais c'est plus simplement monter une deuxième fois. Le deuxième fois vient de Anna. Ici, l'idée maîtresse de lambano, c'est le fait de saisir, d'empoigner quelqu'un. Et l'image que je donnais dans la prédication il y a quelques semaines, c'était cette image de prendre quelqu'un par le collet et de l'amener avec nous, de le prendre par le collet et de le soulever pour qu'il n'ait plus pied à terre. Un peu comme un gamin qui ne va pas dans la bonne direction, qui s'en va vers un danger et on voit le papa qui l'attrape par le collet et qui le soulève comme ça pour lui éviter de trébucher ou lui éviter d'aller donc dans un chemin où il ne doit pas s'aventurer. Il y a cette idée que Paul donne à Timothée. Il faut que tu saisisses Jean-Marc à un tel point qu'il n'a d'autre choix que de t'accompagner. Et dans la vie chrétienne, par moments, effectivement, on a besoin de personnes qui viennent nous empoigner sérieusement, qui viennent nous empoigner pour dire « Tu n'as plus d'autre choix, tu dois te conformer à la volonté de Dieu. » Tu dois accomplir le plan de Dieu dans ta vie. C'est vrai que nous sommes tous maîtres de notre destinée, dans le sens où Jésus ne sera pas Seigneur si je ne lui accorde pas cette seigneurie dans ma vie. Jésus se tient à la porte et il frappe. La Bible nous dit, si quelqu'un entend sa voix et qu'il ouvre, alors il entre et il soupe avec la personne. Ça veut dire que Jésus ne défonce pas les portes. À un moment donné, c'est à nous de prendre la décision d'ouvrir ou de garder la porte close. Contrairement à ce que certains peuvent croire ou affirmer, Jésus ne défonce pas les portes. Il frappe, il frappe, il frappe, il frappe. Il ne se lasse pas de frapper à la porte, mais l'ouverture de la porte reste la décision personnelle de l'individu. Et c'est notre décision. Par contre, Paul est en train de dire à Timothée, pour le service, à un moment donné, il faut empoigner la personne puis lui montrer où aller, comment y aller, quand y aller, pourquoi y aller. Et dans notre vie, on doit prier qu'il y ait effectivement ce genre de personnes qui sont capables de nous empoigner par le collet lorsqu'on est en train d'aller dans une mauvaise voie, lorsqu'on est en train de dévier. Assurément, lorsque quelqu'un est têtu, lorsque quelqu'un est insoumis, lorsque quelqu'un a le cœur dur et la tête dure, ça peut être difficile. Mais cette personne doit être confrontée avec la vérité de son état. Paul disait à Timothée, va voir Jean-Marc, dis-lui que le temps de végéter, le temps de tourner en rond est terminé. Qu'il se doit maintenant de remonter vers le haut et de faire l'œuvre à laquelle il a été appelé. Donc, c'est donc de tirer quelqu'un et de le remonter vers le haut. C'est redondant, mais vous me permettrez cette redondance pour que ce soit très clair dans les pensées des uns et des autres. Donc, prendre quelqu'un et le remonter là où il devrait être, là où il devait être initialement. Tirer et pousser vers le haut. Dans l'œuvre de Dieu, il y a des gens comme Timothée qui ont ce mandat-là. Il y a des gens comme Paul qui a le mandat aussi de dire à certains de ses collaborateurs, « Mais voici, va voir cette personne parce qu'elle a besoin de changer. » Dans l'Église, on a tous des gens, en tant que pasteur, on a des gens auprès de qui on est plus facilement accessible ou qui nous laissent plus facilement accès. Il y a des gens, parfois, des dossiers où je vais dire au pasteur André, au pasteur Sergio, ce dossier-là, cette personne-là, il est préférable que vous l'abordiez. Il est préférable que ce soit vous qui parliez à cette personne pour la viser, l'avertir, l'enseigner, lui prodiguer des soins, voire la reprendre si effectivement le comportement ou l'attitude nécessite la chose. Dans d'autres cas, je vais garder le cas pour moi. Parfois, il y a un des autres pasteurs qui va venir me voir en disant « Florent, je pense que pour tel cas, ça serait bien que ce soit toi qui le fasse, qui applique la discipline, qui applique la décision ou qui approche cette personne. Si ça vient par toi, ça sera mieux reçu, ça sera mieux perçu. » Donc, dans l'Église, on fait comme cela, on travaille comme cela. Au sein même de notre congrégation, on travaille comme ça afin que la personne qui a cette capacité optimale auprès de quelqu'un, de le lever, de le tenir debout, de l'amener vers le haut, de le pousser vers le haut, soit celle, effectivement, qui fasse cette tâche importante. Alors, nous, on doit prier, effectivement, non seulement pour les Timothées qui doivent prendre en main certaines personnes. On doit prier pour les Paul qui doivent être capables d'orienter les différents Timothées. Et on doit prier pour les Jean-Marc, pour que les Jean-Marc acceptent de se faire prendre par le collet et d'être amenés. Paul, Jésus va dire à un moment donné à Pierre, « Aujourd'hui, tu vas où tu veux. Tu vas où le vent te mène. » Tu fais comme tu veux. Mais un jour, on viendra, on te lira et on t'amènera là où tu ne veux pas aller. Le Seigneur est en train de parler, la Bible nous dit, de la mort de Pierre. Mais elle parle aussi de ce caractère autonome, indépendant que Pierre avait, qu'il ne pourrait plus avoir à partir d'un certain temps. À un moment donné, il ne pourrait plus être maître de sa propre destinée. Quelqu'un d'autre le sera, le serait. Dans ce cas-ci, on annonçait la mort de Pierre. Mais en même temps, on connaît le personnage qu'était Pierre. Impulsif, très porté par ses propres émotions et ses propres pensées. Tout le monde pourrait t'abandonner, mais moi, je t'abandonnerai pas. Quelques instants plus tard, il est en train de renier Jésus. Si c'est toi, demande-moi de venir et je vais marcher sur l'eau. Et il marche sur l'eau. Quelques instants plus tard, il est en train de couler. Donc, on connaît le caractère intempestif de Pierre. À un moment donné, Pierre a dû apprendre à se soumettre non seulement à Jésus, non seulement à Dieu, mais de surcroît à cela, contrairement à ce que l'Église catholique a enseigné, comme quoi Pierre était le premier pape de l'Église. La question des papes a été créée des siècles après la mort de Pierre. Et quand on regarde strictement l'Église de Jérusalem, Pierre n'a jamais été le leader de l'Église de Jérusalem. Le leader de l'Église de Jérusalem, c'était Jacques, le frère de Jésus. C'était lui qui était comme le pasteur senior de l'Église de Jérusalem. Dans le collège des anciens, celui qui dirigeait, ce n'était pas Pierre, c'était Jacques. Alors même dans l'Église de Jérusalem, Église où était établi et basé Pierre, Pierre a dû apprendre à se soumettre aux autorités qui étaient là, notamment à celle de Jacques. Et Jacques n'était pas nécessairement l'homme le plus visible parmi les 12. Il faisait partie d'un cercle rapproché de Jésus. On avait des gens autour de lui, 12, 70, même plus. Mais parmi tous ces gens-là, il y en avait 4 qui revenaient régulièrement. Et Jacques va être donc un des leaders qui va apparaître, même pas dans ces 4, il va apparaître dans l'église de Jérusalem et être donc le premier leader de l'église de Jérusalem. Et Pierre a appris à se soumettre. Et nous devons apprendre une même chose. Dans le service de Dieu, il y a aussi la soumission. Jean-Marc l'a appris avec les erreurs, avec les faux pas. Essayons de l'apprendre de la bonne manière, sans les erreurs, sans les faux pas. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce parce que ce matin, tu nous rappelles que la deuxième chance est possible, que la restauration est possible, qu'on peut avoir mal commencé, mal fait, qu'on peut avoir même très mal fait et avoir été comme des déserteurs. Mais que tu nous permets, Seigneur, de trouver restauration afin de bien terminer notre course. Alors je prie, Seigneur, si quelqu'un ce matin se retrouve un peu dans l'état de Jean-Marc, il a commencé puis abandonné, il a avancé un peu puis il a laissé tomber. Je prie, Seigneur, que tu places dans son cœur effectivement ce message de rédemption, ce message de restauration. Et qu'il ait l'humilité, qu'elle ait l'humilité pour se repentir et confesser sa faute et mieux faire. Je prie aussi, Seigneur, qu'il y ait des gens comme Timothée que tu utilises pour attraper par le collet et faire monter vers le haut, que tu utilises avec une grâce toute particulière pour revamper la capacité pour renouveler les forces, pour renouveler l'entrain et l'engagement à ton égard. Qu'il y ait aussi des hommes comme Paul qui sont capables effectivement de croire à la restauration, de ne pas enseigner strictement la correction, mais de comprendre qu'il ne peut pas y avoir une correction adéquate s'il n'y a pas possibilité de restauration. Le message de la correction implique nécessairement le message de la restauration. En fait, le message de la grâce n'est pas un abandon de la correction, n'est pas une mise de côté de l'acte de discipline, puisque la Bible nous dit que tu as pris nos fautes sur toi et que tu as payé à la croix pour nos fautes. Donc le châtiment a été exécuté. Le châtiment est juste tombé sur toi et non pas sur nous. Mais la faute, effectivement, a été sanctionnée et c'est toi qui en as payé le prix, afin qu'on soit restauré. Alors je prie, Seigneur, que nous comprenions ce message de la correction et de la restauration, et que nous puissions aussi le partager autour de nous. Trop souvent, on met l'emphase sur la correction, sur le coup de bâton, sur le coup de bib sur la tête, et on oublie d'avoir ce cœur rempli de compassion et de grâce, rempli de miséricorde, pour assister, accompagner, relever celui qui est passé par un moment de discipline. Alors merci Seigneur de ce message complet de celui, Seigneur, du pécheur que nous sommes, de la rédemption qui nous est nécessaire, de la repentance qui est nécessaire et de la restauration par ta grâce qui est possible. Permets que dans ton Église, on soit non seulement des véhicules de cet enseignement, mais aussi des praticiens de cet enseignement, que nous puissions effectivement prôner une vie juste devant toi, mais une vie aussi qui favorise la restauration. Nous t'avons prié dans le précieux, glorieux et merveilleux nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. Je vous rappelle quelques petites annonces importantes. Ce soir, donc, il y a le cours de préparation pour le baptême. Donc tous ceux qui veulent se faire baptiser ce dimanche, vous devez être à l'église pour 19h pour le cours avec le pasteur André. Les portes ouvrent toujours un peu avant, donc soyez là un peu à l'avance. Donc toute personne qui veut se faire baptiser dimanche doit assister donc à cette formation ce soir à 19h, en présentiel uniquement avec le pasteur André. Autre petite annonce, c'est que cette semaine, c'est la dernière semaine de bénédiction matinale pour l'été. Donc je vais prendre 2-3 semaines, puisque l'automne, on va dire que c'est au mois de septembre. Donc on va faire une pause, une première pause en quelques temps, qui va être nécessaire. Pour moi en tout cas, est-ce que ça sera un temps de repos comme on a dit, on verra bien, mais ça sera une petite pause au moins. Donc, dernière semaine pour les bénédictions matinales cette semaine, et après ça, on arrête jusqu'au mois de septembre. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée dans la grâce et dans la restauration de Jésus, et je prie que vous puissiez monter, être élevé vers le haut, et puis faire l'œuvre à laquelle le Seigneur vous a appelé. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous.